Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. À quel prix l'océan absorbe-t-il nos émissions de CO2 et de chaleur ? Avec Guillaume Masset.
Le plus dur, ce n'est pas la chute, c'est l'amérissage. Dans un épisode précédent, Guillaume Massé, chargé de recherche au CNRS et basé à la station marine de Concarneau, station du Muséum national d'histoire naturelle, nous a expliqué comment l'océan régulait le climat et nos excès en absorbant chaleur et CO2. Il revient aujourd'hui nous expliquer les conséquences de ce rôle tampon pour l'écosystème océanique. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors, en absorbant 90% des excès de chaleur sur la Terre, l'océan s'est sacrifié pour nous en se réchauffant. Quelles sont les nombreuses conséquences à la hausse de température de l'océan et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur son propre équilibre ? Dites-nous.
Alors, moi j'aime bien ce propos-là, équilibre. C'est vrai que dans l'océan, tout est en équilibre. Les masses d'eau sont en mouvement. L'océan, c'est l'absorption de 90% des excès de chaleur sur Terre. Et je dirais, en absorbant cette chaleur, effectivement, l'équilibre se bouleverse. Donc, on pourrait parler de circulation océanique. Cette circulation, elle est liée effectivement très fortement à la température. Par contre, la conséquence la plus importante, c'est vraiment l'élévation du niveau des mers. On le voit actuellement, l'océan se dilate. Souvent, quand on pense réchauffement, on pense à la glace qui fond. On entend souvent dire que la banquise a tendance à se réduire, a tendance à fondre. Mais on ne parle pas beaucoup de la dilatation thermique de l'océan. Et pourtant, c'est la cause principale de l'élévation du niveau marin. C'est un peu le même principe que mon portail en été et en hiver. J'ai un gros portail en fer. En été, quand il fait très chaud, le fer se dilate et mon portail n'ouvre plus puisque en fait il y a dilatation, il devient plus grand. Alors qu'en hiver, il rétrécit et donc là, il s'ouvre très très bien. Ben, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous élevez la chaleur dans l'océan, eh ben, le volume de l'eau va être plus important et donc le niveau de la mer augmente. À ça aussi, effectivement, s'ajoute la fonte des glaces. Et là, on ne parle pas de la fonte de la banquise puisque la glace qui flotte, si vous la faites fondre, le volume d'eau résultant, il ne va pas y avoir de changement. Par contre, avec la hausse des températures sur Terre, effectivement, les calottes glaciaires, donc la glace qui est stockée sur les continents, a tendance à fondre et elle vient augmenter le volume dans les océans.
Vous êtes vous-même un spécialiste des pôles et en tant que tel, vous avez pu constater ce que fait la fonte des glaces sur la chimie de l'océan et ses courants profonds. Est-ce que c'est ça qui est à l'origine de répercussions météo extrêmes ?
Alors, oui, dans le sens où quand vous fondez de la glace, et notamment de la glace continentale, c'est de la glace qui n'est pas salée, c'est de l'eau douce. Et donc, vous allez changer la salinité de l'océan. Donc tout cet apport d'eau douce va faire que l'eau est moins salée. Si l'eau est moins salée, ça va impacter un processus qu'on appelle la circulation thermohaline. Donc la banquise, c'est de l'eau de mer qui gèle. Et ce qui se passe, c'est que quand vous gelez de l'eau de mer, vous avez une partie du sel de cette eau de mer qui est expulsée de la glace. Et donc vous avez les eaux qui sont en dessous, qui vont devenir plus salés. Mais à partir du moment où vous démarrez avec de l'eau de mer qui est déjà moins salée, vous allez former des eaux qui vont être un tout petit peu moins salées que d'habitude. Donc elles sont froides, elles sont quand même salées, mais un petit peu moins. Donc elles vont avoir tendance à couler, puisque une eau salée et froide, c'est une eau dense, c'est une eau qui coule. Et donc, comme vous avez vos eaux en fait, qui sont un tout petit peu moins salées, elles vont avoir tendance à couler moins vite. Et donc, ce phénomène de circulation thermohaline va avoir tendance, effectivement, à se ralentir. Et finalement, La circulation thermohaline, c'est toute la circulation océanique. Donc c'est un peu un tapis roulant. Vous avez des eaux qui plongent, elles se font remplacer par des eaux qui arrivent. Et donc, bah, grosso modo, c'est comme une grosse machinerie qui va mettre en route tout l'océan et qui va permettre aux masses d'eau de circuler. Et donc là, en fondant des glaces, en baissant la salinité de l'océan, cette machine est un peu moins performante.
Et en termes météo, qu'est-ce qu'il faut craindre ?
Bah, c'est tout le transport de chaleur, c'est les eaux circulent un peu moins vite, les courants sont un peu moins puissants et ainsi de suite. Par exemple, bah, on va dire que dans les zones tropicales, vous allez avoir de l'eau qui va se réchauffer à cause du réchauffement, bien sûr, de l'atmosphère, mais le fait qu'elle réside plus longtemps aussi au niveau des tropiques, qui va passer, par exemple, certains points critiques comme, je dirais, une température de 25 degrés, par exemple. Et souvent, en fait, 25 degrés, c'est le seuil de formation des cyclones et des ouragans. Donc, voilà, il y a des risques d'avoir des événements un peu plus extrêmes. Vous regardez au Texas, vous le regardez en Floride, où il y a de plus en plus d'ouragans et de tornades.
Donc ça ne nous est pas expliqué au journal Météo, mais la multiplication des ouragans, des cyclones, des tornades, c'est une conséquence indirecte de la fonte des glaces.
C'est un peu raccourci, mais on va dire ça comme ça, ouais.
Quand l'océan se réchauffe, par définition, les conditions de vie de toute une biodiversité, végétale et animale, sont aussi chamboulées. Quelles conséquences pour le vivant au pôle ?
Alors effectivement, les zones polaires, même si c'est très froid, même si certains en fait, pourraient considérer ça comme des conditions extrêmes, c'est vraiment des zones très très riches en biologie. Et notamment les zones qu'on appelle les zones marginales de glace, donc en bordure de la banquise, sont des zones qui sont très très productives, où il y a beaucoup de microalgues, de phytoplancton, d'organismes photosynthétiques. Alors je dis marginales, mais aussi sous la glace. Si vous réchauffez l'océan, si les températures atmosphériques se réchauffent, vous allez effectivement avoir une banquise qui va fondre plus vite. Et donc, la banquise, si vous êtes une microalgue dans l'eau, c'est un peu comme un écran noir, c'est comme les volets aux fenêtres. La microalgue a besoin de soleil et de l'énergie lumineuse pour faire de la photosynthèse, pour capter le CO2 et pour faire du carbone, pour vivre. Et donc, si vous ouvrez les volets un peu plus tôt, parce qu'il fait plus chaud, la banquise fond plus vite, les algues vont se mettre à pousser un peu plus tôt dans la saison. Et donc, dans un milieu où tout est extrême, les organismes sont hyper spécialisés, c'est-à-dire que le copépode, donc le zooplancton, qui lui est armé pour aller manger des microalgues, pendant l'hiver, il descend en profondeur et puis il a tendance à remonter au printemps, mais s'il remonte trop tard, parce que justement les volets ont été ouverts trop tôt, tout ça engendre des dérèglements dans les chaînes alimentaires, dans le transfert de l'énergie du phytoplancton vers le zooplancton et puis vers les organismes prédateurs supérieurs, on va dire, tels que les oiseaux, les poissons, voire même les humains. Donc ça engendre des catastrophes à cause de différences de timing comme ça. Grosso modo, les volets s'ouvrent trop tôt.
Est-ce qu'au-delà de ces catastrophes en termes de timing, on observe souvent que quand des espèces sont menacées par le réchauffement, elles migrent vers des eaux plus froides? Mais là, comme on est sur les eaux plus froides au monde, est-ce que ça veut dire que si ça venait à se réchauffer, il y aurait la disparition mécanique de nombreuses espèces?
Alors vous avez raison, les organismes ne peuvent pas aller à de plus hautes latitudes, ils sont déjà très très hauts en latitude. Mais cela risque effectivement de se faire remplacer par des espèces qui vivaient un peu plus au sud auparavant. Un exemple, c'est la morue. Alors, en Arctique, on a ce qu'on appelle la morue polaire. Alors, c'est pas celle qu'on a l'habitude de manger. Mais par contre, elle est essentielle. C'est un peu comme le poisson fourrage de l'Arctique. Il y en a des tonnes et des tonnes. C'est une espèce qui est vraiment centrale au niveau des écosystèmes. Elle est mangée, par exemple, par tout un tas d'oiseaux, par des phoques. Et effectivement, avec le réchauffement, ce qu'on observe là, c'est qu'il y a des espèces qui vivent un peu plus au sud, qui ont tendance à venir sur les territoires de la morue arctique, et notamment la morue boréale, celle qu'on mange, elle a tendance à remonter. Les Vikings se sont rendus compte que pendant les périodes chaudes, la morue avait tendance à remonter en latitude, et que pendant les périodes froides, il y avait beaucoup de morues en Islande, mais aussi en fait le long des côtes du Groenland, alors que pendant les périodes froides, la morue restait plus au sud de l'Islande. Et donc il y a tout un tas d'espèces comme ça qui, avec le réchauffement de l'Arctique, ont tendance à migrer vers le nord.
Au-delà du réchauffement, l'autre péril qui menace le vivant océanique, c'est l'acidification des océans, qui est une conséquence du fait que l'océan pompe massivement du CO2. Tout ça, ça rend la vie très difficile à un tas d'organismes et ça pourrait même menacer la chaîne alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ?
Plus de CO2 dans l'atmosphère, ça veut dire plus de CO2 qui va se diluer dans l'océan et effectivement un océan qui devient plus acide. Il y a tout un tas d'organismes qui font leur coquille en carbonate de calcium. Donc vous prenez une moule, vous prenez une huître, mais aussi du phytoplancton. Vous avez des organismes avec un nom barbare qu'on appelle les coccolithophores, qui ont des coquilles aussi, on appelle ça des testes, qui sont en carbonate de calcium. Et si vous mettez du vinaigre sur de la craie, vous allez voir des bulles. Ben, c'est un peu le même principe. Plus le pH de l'océan descend, plus, pour ces organismes, ça va être difficile de faire leur coquille. Ils vont mettre plus d'énergie pour faire leur coquille. Et encore une fois, tout ça, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que si vous dépensez de l'énergie pour faire votre coquille, eh ben, vous allez moins en dépenser pour faire des bébés. Et donc, c'est plus difficile pour les organismes de se reproduire. Et donc, bah, finalement, moins de nourriture pour les réseaux trophiques.
Alors décidément, c'était pas l'épisode des bonnes nouvelles parce que je voudrais qu'on finisse sur une petite bombe cachée. On a parlé de l'élévation de la température de l'eau en surface et également sous l'eau, mais elle se réchauffe également dans les fonds marins. Et quel péril particulier faut-il redouter avec l'élévation de la température dans les fonds marins ?
Effectivement, tout à l'heure, je vous ai dit que l'eau circulait, que vous avez une circulation en 3D avec des eaux qui plongent, certaines qui remontent. Une eau plus chaude, c'est moins de CO2 qui se solubilise dans cette masse d'eau. C'est aussi moins d'oxygène. Une eau moins riche en oxygène, c'est une eau qui va être moins propice à la vie. Parce que vous avez des organismes qui respirent justement cet oxygène. Et donc, une eau qui était chaude en surface, elle va plonger, elle va être moins propice à la vie. Et donc, c'est ce qu'on appelle la désoxygénation de l'océan. Et puis après, on parle souvent en zone arctique du permafrost ou du pergélisol. Donc, de tous ces sols qui sont congelés, qui contiennent une grande quantité de carbone et qui ont tendance à fondre. Et finalement, il y a l'activité bactérienne qui reprend et il y a éventuellement formation de gaz à effet de serre, cette fois-ci du méthane, par exemple. Au fond de l'océan, il y a des zones où il y a du méthane qui est en quelque sorte solidifié. Et le fait qu'il puisse être solidifié, c'est lié à une basse température, à la pression, bien sûr, puisque c'est profond. Donc, haute pression, basse température. Et finalement, si vous réchauffez le fond de l'océan, cet équilibre ne tient plus. Et donc, vous allez avoir des bulles de méthane qui vont migrer vers la surface. Le méthane va devenir gazeux et puis va venir s'ajouter aux gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère. Donc, ça aussi, c'est une petite bombe climatique.
Donc, potentiellement, un réchauffement de l'atmosphère hors de contrôle qui serait lié à une élévation de la température tout en bas de l'océan. Donc ce que vous nous avez expliqué, c'est que le vivant sur Terre, il tient grâce à un équilibre très fragile qui est principalement liée aux fonctions océaniques et qu'il faut vraiment qu'on chérisse l'océan avant qu'il soit trop tard.
Tout à fait. Je pense que plus que jamais, c'est important de dire qu'il y a des limites à ne pas franchir pour ne pas rompre tous ces équilibres.
Humilité face aux limites. Merci beaucoup, Guillaume Massé.
Dans cet épisode, vous venez d'écouter Guillaume Massé, chargé de recherche au CNRS et basé à la station marine de Concarneau, station du Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewé par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la Financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast.